Je remercie la librairie Mola, bien sûr, notre partenaire Bordeaux Métropole. Et nous avons avec nous, et je vais lui donner la parole de suite, Vincent Gémuneau, délégué général du marché de la poésie de Paris et donc directeur des périphéries aussi du marché de la poésie, qui est notre partenaire cette année parce qu'il a lancé les états généraux de la poésie en France, donc qui ont lieu à Paris en région dans le cadre du marché de la poésie et des périphériques. Et je vais lui demander de suite, avant que l'on commence donc notre rencontre autour de la littérature et des formes littéraires dans l'espace public, de dire un mot. D'abord, je remercie son partenariat et de dire un mot sur ce que sont les états généraux de la poésie en ce moment et enjeux et avenir de cette forme littéraire en particulier. Alors, Vincent.
Merci Didier. Merci au Bleu du Ciel de nous accueillir et à la librairie Mola aussi de nous accueillir ici. Je pense que c'est aussi essentiel que la poésie se retrouve dans le milieu de la librairie. Donc dans la plupart des manifestations qu'on fait, il y en a une dizaine qui se déroulent en librairie. Là, on doit en être à la 26e ou 27e manifestation de ces états généraux de la poésie. On a décidé cette année d'essayer de mettre un petit peu à plat tout ce qui concerne la poésie et puis d'en tirer sans doute d'ici la rentrée, fin de l'année, un cahier de doléances pour l'année prochaine, comme est le principe des états généraux. Donc lorsque Didier nous a proposé de nous associer à cette manifestation sur éditer la ville, bien entendu, il est évident que la poésie doit être partout, dans la ville y compris, et on s'est senti un petit peu naturellement dans le mouvement. Donc je vais vous souhaiter une très bonne soirée. On est ravis de faire, dans le cadre de toutes ces manifestations, beaucoup d'événements en région. Il était essentiel aussi que le marché de la poésie se déplace en province et ne reste pas typiquement parisien. Donc on a ouvert ces états généraux à Lyon. On a déjà fait des choses à Villeneuve-sur-Lot, à Avignon. On va en faire à Marseille. On en fait également à Nice. On essaie de se déplacer un peu partout cette année parce qu'effectivement la vie poétique n'est pas qu'une vie parisienne. Et c'était important de le montrer. Je remercie Didier de son accueil et je vous souhaite une bonne soirée.
Bon, merci Vincent, qui laisse la place. Alors on va aller vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc je résume rapidement notre rencontre. Donc c'est la seconde de ce cycle qui s'appelle Éditer la ville. Donc en gros, qu'est-ce que c'est ? Nous, on pense que les écrivains et les poètes aujourd'hui, dans leur écriture, ont largement leur place avec leur production dans la ville. Alors dans la ville, c'est-à-dire installer des choses dans l'espace public, et aussi un espace politique, et aussi un espace du présent. Donc il faut considérer, je pense, les usages des gens, les lieux, réfléchir à l'urbanisme, comment les choses maintenant circulent. La ville, c'est aussi un média, c'est aussi un espace de communication, et forcément un espace de vie, bien sûr, qu'il faut saisir. Donc l'art public a sa place, peut-être pas assez d'après moi, mais à sa place grâce au 1% d'État depuis une trentaine d'années. Moi je trouve que, bon, d'abord c'est pas suffisant. Deuxièmement, la littérature et la poésie nourrissent énormément de réflexions. Il y a des ponts avec l'architecture, mais au niveau encore des idées et des thématiques et des questions, mais pas encore au niveau physique et matériel. Voilà, donc ma question c'est pourquoi pas avoir entre écrivains, poètes, et artistes, et architectes, et urbanistes, et designers, et paysagistes, donc je l'ai dit, des collaborations pour arriver à créer du texte, alors soit de façon éphémère, soit après de façon pérenne, sous quelle forme, à quel endroit, comment, dans quel style. Voilà, il y a énormément de questions qui se posent. C'est un engagement, je trouve, parce que bousculer l'espace public, c'est quand même des choses maintenant qui sont très surveillées, normées. Voilà, c'est plutôt le monde de la publicité, de la communication, du pouvoir, je l'ai dit toujours tout à l'heure, mais peut-être un peu au détriment des habitants qui partagent vraiment cette ville et cette vie. Et quand je dis ville, c'est aussi des zones périurbaines et puis après même rurales. Voilà, donc on en est au stade des idées, bien qu'il y a quand même des choses qui sont tentées. Bon, le 1% artistique, très peu sont confiés à des écrivains. Contrairement par exemple à des pays comme le Canada et notamment le Québec, où c'est beaucoup plus ouvert, et des écrivains sont eux-mêmes artistes, ou en tout cas proposent des textes qui sont installés dans les espaces publics, dans les parcs, sur des ponts, sur les toits, inscrits sur des murs immenses. Voilà. Alors que nous, c'est quand même plus voilà, plus léger, quoi. Ces thématiques intéressent, et notamment intéressent les auteurs avec lesquels je travaille. Donc, à ma gauche, je vous présente François Maton, hein, qui est écrivain et dessinateur, qui publie essentiellement ses livres chez POL, et qui travaille aussi un peu avec le Bleu du Ciel. Là, je suis avec Marie-Laure Picot, qui dirige l'association Permanence de littérature et le Festival Ritournelle à Bordeaux, spécialisée en littérature et art contemporain, donc qui a aussi des projets sur la ville. À ma droite, j'ai le poète Philippe Beck, qui a une œuvre maintenant très importante, essentiellement publiée chez Flammarion, mais aussi dans d'autres maisons d'édition, Corti, pour les livres les plus récents, et notamment les actes du colloque que Cerisy a consacré à son œuvre en 2013. Philippe étant un ancien président de la commission poésie du Centre national du livre et actif sur les états généraux de la poésie cette année. Et Mathieu Pot-Bonneville, donc, est un philosophe. Voilà, un philosophe spécialiste de Michel Foucault et qui dirige le pôle Idées et Savoirs de l'Institut français. Et c'est lui qui a créé en janvier la première nuit des idées au niveau international. Et c'est quelqu'un avec lequel nous travaillons en ce moment sur une affiche. On a déjà fait un livre avec lui et François Maton qui s'appelle Dictionnaire. Et il nous prépare un texte en ce moment sur les insomnies. Donc c'est quelqu'un de très sérieux et très drôle à la fois, qui a un regard qui a participé à la fondation du journal Vacarme, qui est une revue très engagée, et qui a un regard aussi très poétique sur tout ce qui peut se passer en ce moment dans la cité. Voilà. Donc, alors, peut-être je vais commencer par donner la parole à Philippe Beck, parce qu'il est poète, mais il est aussi philosophe. On peut me dire, Philippe ? Non. Alors, il est poète. Il enseigne la philosophie. En tout cas, voilà, on a discuté un petit peu tout à l'heure. Ce sujet l'intéresse. Et récemment, donc, il me disait qu'il a été contacté par des architectes, justement, pour réfléchir à ces questions-là. Donc, je lui laisse sa parole.
Peut-être le plus simple, c'est de partir de ce fait qui m'a semblé intriguant d'être approché par un architecte qui s'appelle Cyril Fèvre-Aublin. Qui enseigne à Paris-Val-de-Seine. Alors, approcher, ça veut dire qu'il était venu une fois à une lecture de poésie, il a fait cette démarche comme architecte, comme intellectuel, comme citoyen, et j'ai senti chez lui une espèce de... ce qu'on pourrait appeler une étonnante passion pour la poésie, et alors, peut-être ma réaction était peut-être un peu naïve, je trouvais ça étonnant, intéressant qu'un architecte se préoccupe de poésie à ce point. Je veux dire, c'était pas, au-delà de la curiosité intellectuelle, il y avait quelque chose de vital pour lui, manifestement vital. Ensuite, il m'a invité à donner des cours de poétique dans son école, mais j'ai toujours constaté cette espèce de profonde... certitude que les étudiants en architecture devaient se rapporter au poème. Alors, j'ai compris peu à peu ce que ça voulait dire pour lui, le poème. Son idée du poème est une idée qu'on peut après tout défendre. C'est l'idée d'un langage exact où chaque mot est en sa place, etc. etc. Enfin, c'est une idée assez classique d'une certaine manière, mais qui continue de circuler. Malgré tout, je le crois vraiment, dans les écritures dites contemporaines ou modernes. Et donc, l'idée qui est celle de cet architecte, c'est qu'aucun aspirant architecte, aucun étudiant en architecture ne peut réellement se rapporter à son art sans... fondamentalement se poser la question du poème. Alors, c'est quand même étonnant, puisque l'architecture et la poésie, peut-être pour les Grecs, étaient deux arts corrélés, mais pour nous, c'est quand même pas une évidence, quoi. Hein. Je crois pas dire quelque chose de saugrenu, hein. C'est quand même des arts qui sont a priori extrêmement éloignés. Pourquoi ? Parce que nous sommes persuadés que la poésie est un art du temps et que l'architecture est un art de l'espace. Bon. Or, évidemment, à parler avec ses étudiants, à parler avec lui, etc., j'ai découvert peu à peu que l'idée n'était pas simplement que, que ceux qui étaient appelés à élaborer des projets, puisque le mot projet est un mot constamment employé dans le milieu de l'architecture, ceux qui étaient appelés donc à exprimer, formuler une intention susceptible ensuite de se réaliser, cela devait absolument non seulement penser et donc formuler ce qui pouvait être la teneur de leur intention, et aussi exactement que possible, mais il y avait quelque chose de plus. Autre chose que simplement cette question du rapport entre l'intention et l'expression, et de autre chose qu'une simple question de nouage entre l'intention et l'expression, en général et en architecture en particulier, qui est une question aussi extrêmement importante en poésie, puisque, pour ne citer que Baudelaire, dans le Tirse, hein, ces deux termes sont en tension, l'intention et l'expression, le bâton et les fleurs. Mais il y avait une autre chose encore, c'était qu'évidemment, l'architecture, c'est un art de l'espace sans doute, mais c'est un art du temps en même temps, c'est-à-dire un art de la traversée d'un lieu, puisque les architectes bâtissent des lieux que l'on traverse. Et étant aussi un art du temps, c'est aussi un art de la pensée. Et donc l'expérience même que nous pouvons faire dans n'importe quel lieu, hein, celui-ci ou dans une ville, cette expérience de la traversée d'un lieu ou des lieux, c'est en même temps une expérience du langage, donc expérience de la pensée en tant que la pensée se formule. Donc j'ai découvert ça peu à peu cette année, hein, c'est tout frais. Donc j'étais dans un premier temps étonné d'être invité à parler de ce dont nous parlons. Mais en même temps, oui, il y a eu quelque chose de raisonnable là-dedans. Alors en quoi cette affaire se rapporte à ce que j'essaie de faire? Je me suis dit aussi que, au fond, il y avait une urgence, peut-être que ce sera contesté par certains de mes collègues ici, mais il y a une urgence à rappeler que la poésie n'est pas qu'un art du temps, ouais. Mais aussi un art de l'espace, un art de la traversée des lieux et de la pensée formulée dans la traversée des lieux. Alors, en même temps, c'est aussi un art, si c'est un art. Je ne pense pas que la poésie soit un art fermé sur lui-même non plus, hein, mais ce n'est pas une discipline qui se rapporte à l'histoire des lieux et à la circulation des lieux dans les pensées déjà formulées, etc. etc. Donc, dans un livre qui s'appelle « Contre un boileau », j'ai un chapitre qui est consacré à la poésie comme science-fiction de maintenant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire science-fiction de maintenant? Ça veut dire que, je ne vais pas m'étendre là-dessus parce qu'il faut que je laisse la parole à mes camarades, mais ça veut dire que la vraie science-fiction, sans doute, c'est la science-fiction de maintenant, c'est-à-dire de ce qui est en train d'arriver, de ce qui est en train de se produire, en tant que ce qui est en train de se produire dans les lieux, puisque les événements ont lieu. Ça ne peut pas, on ne peut pas y accéder. En dehors d'une expérience de la langue. Voilà. On accède à la vérité des lieux ou des événements dans les lieux en se rapportant toujours au possible de la langue, à tout ce dont les mots sont chargés. Et puis il y a de grands exemples, hein, de ce dont la langue est chargée, lourdement, terriblement parfois. Hein. Par exemple, l'ouvrage de Klemperer, sur la langue du Troisième Reich, etc. Ce qui veut dire qu'il n'y a aucune langue n'est simplement immanente au présent. Aucune langue n'accède en transparence à ce qui peut être la vérité du présent. Pour une bonne raison, c'est que le présent est par définition fuyant. Il est fui et fuyant dans les deux sens. Donc, ce qui nous incombe quand nous parlons, quand nous écrivons, c'est de ne jamais l'oublier, de certaines façons. Que de ne jamais oublier que ce dont nous parlons, c'est ce présent apparemment solide, hein, qui peut prendre une forme architecturale. Il y a des murs, il y a des gens qui sont... Là, vous êtes assis, vous ne partez pas. Il y a une solidité des faits présents, et pourtant, le présent fuit. Hein, et la vérité, même psychique, enfin, elle est fuyante. Hein, elle est constamment rayonnante. Vous partez, vous êtes là, mais vous partez, vous pouvez penser à autre chose, vous êtes, des souvenirs viennent surdéterminer votre attention, etc. etc. Donc, ce dont la poésie est chargée, c'est quand même toujours d'une expérience de ce qui se produit dans les phrases. Si ça a un sens de continuer de parler de poésie, pour moi, c'est à cet égard.
Philippe, je vais passer la parole à... Et on va revenir.
Voilà, sur non, c'est tout, c'est bon, j'avais tout dit, enfin de ce que j'avais l'intention de dire.
Et on reviendra sur l'expérience que tu. J'aimerais bien que tu nous dises quels sont les retours des étudiants par rapport à tout ça, mais ça, on en parlera après. Bien. Alors, je suis content d'avoir Mathieu avec moi. Et tu as pensé à des choses, à une communication, notamment en revenant de ton séjour d'Athènes.
Si la question est celle de la façon dont la poésie peut circuler, s'installer dans la ville, je pense qu'il faut partir de cette question, de ce constat que la ville est écrite, qu'elle est même surécrite et réécrite en permanence, de sorte que on n'est pas du tout dans un rapport où le discours poétique devrait venir s'installer comme ça à l'endroit d'un paysage qui l'attend pour se dire, hein, dans un rapport entre le mutisme des choses et la rage de l'expression, quelque chose de ce genre-là, entre Bonnefoy et Ponge, la poésie doit jouer des coudes. Elle doit jouer des coudes à l'intérieur d'une multitude de signes qui se contredisent, se concurrencent les uns les autres, tâchent de se faire taire les uns les autres, et avec des enjeux fort sérieux, avec des enjeux qui sont des enjeux d'abord quotidiens, ordinaires, mais aussi bien des enjeux politiques. Il faudrait ici convoquer toute une bibliographie, parce qu'il y a toute une bibliographie sur cette affaire-là. Je vous recommande deux choses à cet égard-là. D'une part, un livre qui est remarquable, qui est le livre de Philippe Artière, qui s'appelle « La police de l'écriture », où l'historien Philippe Artière analyse la manière dont se met en place une réglementation de l'écrit dans l'espace urbain entre la moitié du 19e siècle et le début du 20e, avec pour pivot la loi de 1881, la défense d'afficher. Mais ce défense d'afficher répond très directement à un événement qui est celui de la Commune de Paris et de la manière dont, pendant la Commune de Paris, les affiches ont littéralement couvert la capitale. Donc il y a une bataille de l'écriture, hein, il y a une pléthore de l'écriture, il y a une réglementation, une série de règles, un ordre, des strates d'ordre de l'écriture, mais sous ces strates ou à travers ces strates, il y a une forme de bataille de l'écriture, une bataille de l'écrit pour contester, manifester, interdire, obliger, orienter, inciter les gens à faire des choses. De sorte que... tu m'interromps.
J'ai une question.
De sorte que la question, est celle de, comme dirait Nietzsche, de contrefaire le sourd, c'est-à-dire au fond non pas de parler là où il y avait silence, mais plutôt de créer une sorte d'écart dans ces multiples régimes de signes, d'écart où autre chose puisse advenir, un autre, si on admet que poésie ou poétique nomme, je dis ça avec beaucoup de prudence parce que j'ai à côté de moi un éminent spécialiste de cette question, mais si on admet que poétique nomme un écart dans l'ordre de l'écriture et de la parole, cet écart, il faut le faire.
D'accord. Voilà.
Il faut le faire et Il en va de la possibilité de dire la ville, mais il en va aussi de la possibilité de l'habiter. Alors, je dis un mot, puisque c'était effectivement ce que j'avais prévu de faire avant de me perdre. Je dis un mot d'Athènes, dont je reviens, voici quelques jours, et j'ai été, comme beaucoup de visiteurs de la capitale, comme beaucoup de visiteurs de cette ville aujourd'hui, frappé, sidéré, saisi par le fait que cette ville est écrite, c'est entièrement, dans une grande partie, écrite, peinte, dans des proportions qui laissent loin derrière des villes comme Berlin, par exemple, où on a aussi de grandes fresques murales, de très nombreux graffitis, une sorte d'appropriation de l'espace urbain par tous les moyens et tous les styles. Il faudrait, j'avais préparé des images, mais il faudrait les comparer. À Athènes, c'est littéralement... On est entre un livre et la grotte Chauvet, en gros. C'est-à-dire que les fresques de tous les styles possibles épousent les anfractuosités des magasins fermés ou des immeubles murés, parce que tout cela fait fond sur une crise majeure, sur une crise européenne. Et sur cette crise européenne, à même cette crise, des choses viennent se peindre, se dessiner, s'écrire, certaines très vite, d'autres moins vite, des signatures, des fresques, des témoignages, des revendications, etc. Et le rapport entre, disons, la déshérence, la relative déshérence de la ville, son calme, c'est tout de même très troublant de penser qu'aujourd'hui Athènes est une ville calme. Athènes qui ressemblait au Caire il y a 10 ou 15 ans, hein, en termes de circulation. Certaines déshérences de la ville, la place du végétal, il faudrait parler de la reconquête du végétal dans cette affaire-là, et l'écriture dans un rapport de coalescence comme ça, avec de la peinture, avec du dessin, etc. Ça forme une situation de circulation qui est en même temps une circulation de lecture et qui est en même temps une forme de méditation politique. Ça, je trouve que c'est intéressant.
Alors, rapidement, j'ai une réaction, Mathieu, à ce que tu dis. Là, tout à l'heure, en introduction, je disais que nous, dans nos villes françaises, ce dont tu parles par rapport à Athènes, je trouve ça très pauvre et peu de choses finalement visibles, comme tu l'exprimes par rapport à Athènes. Donc, même si je comprends que tu parles de ces panneaux, et finalement, il y a une écriture quand même de la ville, et je trouve qu'elle est très ténue et presque invisible maintenant, donc elle est peut-être cachée. Et deuxièmement, je voulais te poser une question, ça c'est une réaction par rapport à ce que tu me dis, c'est quand même beaucoup de graphes, de graffitis, de revendications, la lettre et la littérature arrivent, mais est-ce qu'elle peut, par rapport à ce que tu me dis, arriver plus que ça? Est-ce que tu penses que c'est le début d'émergence de choses qui peuvent transformer la ville dans le cadre de nos rencontres, là. C'est-à-dire qu'à un certain moment, ça peut être un peu plus pensé par des écrivains, des artistes et des architectes. C'est chaud, hein,
ça fait énormément de questions. alors, quelques bribes de pistes, non pas de réponses, mais pour prolonger ces questions. Je voulais citer tout à l'heure une autre référence que je vous recommande, qui est un blog de chercheurs qui existe depuis plusieurs années maintenant. On parlera peut-être de la question dont le numérique n'est pas totalement étranger à notre affaire, mais il y a un blog qui s'appelle Scriptopolis. Scripto comme écriture et polis comme la ville, qui est coordonné par deux chercheurs que sont l'historien Philippe Artière et le sociologue Jérôme Denis depuis plusieurs années maintenant, depuis bien des années maintenant, même s'ils ont perdu puis retrouver une partie de leur contenu l'année dernière, bref, à voir avec l'effacement, qui est un blog sur les usages urbains de l'écrit. C'est-à-dire que une photo, un texte. Mais la photo peut être la photo du petit panneau qui, à l'entrée, dit « silence », la photo de tous ces écrits que nous ne voyons pas parce que nous avons avec eux un rapport de familiarité tel qu'il passe immédiatement de l'autre côté de notre conscience. Donc je pense que cette pauvreté, c'est une pauvreté aussi d'accommodation. Heureusement, je pense qu'on ne survivrait pas si on percevait en permanence ce qui nous entoure, la totalité de ce qui nous entoure, nous n'y survivrions pas. Et sans doute, la condition, comme on le sait d'ailleurs, la condition pour accéder au sens, c'est d'oublier la lettre. Nous ne cessons d'oublier les lettres qui nous entourent à cet égard-là. Mais je pense que, oui, il y a une pauvreté, mais cette pauvreté, en même temps, elle, c'est une forme de saturation.
D'accord. Et on peut partir de cette base-là, à ton avis, peut-être pour aller plus loin.
Oui. En tenant compte du fait que pour aller très vite, et pour employer des mots dont je me charge comme on soulève un poids trop lourd pour soi, en tanguant un peu, en ayant peur de m'effondrer. Mais la littérature, disons, la littérature considérée comme ensemble d'œuvres, mais surtout comme faisceau de problèmes, comme tradition d'affronter ou de prendre en charge une série de problèmes. À mon avis, la littérature ne doit pas arriver en ville comme le cow-boy dans les westerns, en faisant claquer ses éperons au sol. La littérature doit arriver en ville en tenant compte du fait qu'un certain nombre des questions qu'elle va poser avec sa hauteur propre, son registre propre, ces questions sont déjà en un sens posées par les praticiens de l'écriture sauvage.
D'accord.
Voilà. Parce que des questions comme qu'est-ce que c'est que de mettre des mots sur un mur, quel genre de monument ça fabrique, quel genre d'injonction ça fabrique, quel genre de trace, quel genre d'adresse, à qui on s'adresse au fond, quand on écrit sur un mur, à qui ça parle, est-ce que quelqu'un parle? C'est-à-dire, qu'en est-il de la signature de cette adresse? Ces questions-là, que la littérature et que l'édition peut poser, ces questions-là, elles ont été arpentées d'une autre façon, qui n'est pas concurrente, qui n'est pas ni peut-être qui n'est pas meilleure évidemment. D'une autre façon, par un certain nombre de praticiens. On sait que, et du coup, il y a des points de rencontre. Enfin, on sait que ce que nomme mai 68 est un point de rencontre entre ces lignes-là, au fond.
D'accord.
Et ça a fait des choses
Alors,
passionnantes.
On va rentrer dans la. Je vais passer la parole à nos deux autres invités. On va rentrer dans des choses plus concrètes. Donc, avec l'expérience de François Maton, qui a plusieurs expériences de textes qui ont été accrochés dans l'espace public. Et donc, François, je te passe la parole. Et après, on reviendra avec Philippe et avec Mathieu sur des choses, justement, sur quel type de texte mettre dans l'espace public. Ça m'intéresse beaucoup. Et c'est ces changements de statut, d'un texte littéraire hors du livre, dans la vie courante, et ça, c'est des questions aussi passionnantes, mais on a des choses pratiques avec
oui,
François
pratique. non, juste un témoignage. La première tentative de faire quelque chose dans l'espace public, sans avoir pensé du tout à la question de la poésie dans l'espace public, c'était quand j'étais étudiant en dernière année. On avait repéré un château d'eau à la sortie de Reims. J'ai fait les Beaux-Arts à Reims. Un château d'eau qui faisait face à toutes sortes de barres d'HLM qui nous semblaient très austères. Et donc on s'était mis dans la peau de ces gens-là qui devaient sûrement travailler comme les Français travaillent, paraît-il, tous les jours, et se lever et avoir la première image qu'ils avaient sous les yeux, c'était ce château d'eau. Et on s'est dit, tiens, si un jour apparaissait quelque chose de différent sur le château d'eau, ça pourrait provoquer peut-être quelque chose. Donc on s'était amusé à réaliser un grand poisson rouge de plusieurs mètres qu'on est allé coller sur le château d'eau en face de la barre d'immeuble. Et on voulait inscrire en dessous, mais on a eu un peu la trouille de se faire attraper parce qu'on n'avait évidemment pas demandé d'autorisation ni rien. On voulait mettre heureux, point d'interrogation, genre heureux comme un poisson dans un château d'eau ou quelque chose comme ça. Ça, c'était amusant. Et Plus tard et même relativement récemment, j'ai eu l'occasion de... J'étais en résidence à Manosque. Manosque qui est une ville moins écrite, je pense, qu'Athènes. Et donc j'étais en résidence et j'étais un peu invité à réaliser des choses comme ça, dans, un peu disséminées dans la ville. Et je me suis dit quoi, parce que mon truc un peu à moi, c'est davantage le dessin. Je voulais pas répéter cette expérience de dessin qui flotte, d'autant qu'il y en a de plus en plus. Enfin, je suis très gêné par cette surécriture, cette abondance en tout cas de signes. Et je veux pas en rajouter. Moi, mon idée, ça serait plutôt de gommer tout, gommer le discours, gommer toutes les informations. Et alors du coup, oui, j'ai plutôt rédigé des textes courts à l'adresse des éventuels passants pour les inviter non pas à lire de la poésie signée par un François Maton qui n'en écrit pas, mais pour les inviter à prendre conscience tout simplement de leur corps là, ici, maintenant, et des choses qu'on entend beaucoup aujourd'hui et partout. Et voilà, donc ça a donné naissance à des textes qui s'appellent que j'ai appelé après des exercices de poésie pratique. Il s'agissait d'appliquer quelque chose sur soi. Et ça a marché. Les gens se sont arrêtés. Ça a créé comme des espèces de petites stations. Les gens étaient assez recueillis, m'a-t-il semblé. Et à Nantes, plus tard, j'ai essayé autre chose. Alors là, il y avait davantage d'argent. On a fait les choses et c'était beaucoup moins bien parce que c'était vraiment davantage parmi les commerçants. On était complètement noyés. Et là, j'ai l'impression que les gens s'arrêtaient pas et ça marchait pas. Est-ce que je peux lire petite. Alors, il y avait un texte qui était une invitation à s'arrêter, tout simplement. Alors, je l'ai un petit peu remis en forme, mais arrêtez-vous, c'était l'invitation. L'exercice de poésie pratique en chef est bien évidemment l'arrêt. C'est l'exercice fondamental, premier et insurpassable. Il est le sésame de l'accès au jardin poétique. Un sésame délicat, puisque pour entrer, il faut s'arrêter, paradoxe qui laissera à coup sûr les gogos empressés sur le seuil. Se décider à le pratiquer régulièrement marque le véritable engagement dans la voie poétique. Avant la découverte de ce qu'il révèle, on n'a généralement qu'une idée de la poésie, avec lui, on en a une expérience. Dès lors, une fois ce pas franchi, aucun retour en arrière ne sera plus possible. Il faudra désormais composer avec la poésie, soit en l'actualisant, soit en la bafouant, mais jamais plus en l'ignorant. À l'intention de ceux qui ne connaîtraient pas son principe pourtant simplissime, je rappelle que l'exercice de l'arrêt consiste à s'arrêter. Oui, s'arrêter, tout simplement. Autrement dit, cesser soudainement de faire quoi que ce soit. Voici un exemple. Alors que vous êtes en train de manger des raviolis, vous cessez soudainement de manger des raviolis. Voici un autre exemple. Alors que vous courez dans le métro, vous cessez soudainement de courir dans le métro. C'est aussi simple que ça. Action, cessation de l'action, voilà en quoi consiste l'arrêt. Car aussi invraisemblable que cela puisse paraître pour qui n'a jamais pratiqué cet exercice, il est bel et bien possible à tout moment de s'arrêter de faire ce que l'on est en train de faire. Il suffit pour cela de s'interrompre, c'est-à-dire de suspendre d'un coup tout mouvement, tout élan, tout affairement, toute projection. Juste s'immobiliser, c'est tout, rien de plus simple. La seule difficulté est de ne pas penser aussitôt aux conséquences de cette interruption. Ne pas penser, mes raviolis vont refroidir. Ne pas penser, je vais me retrouver chez les fous à Sainte-Anne. Non, s'en tenir à l'arrêt, tel un chien de chasse, figé comme pour l'éternité, et que nulle anticipation ne vient contrarier. Tenter de dire ce que révèle l'expérience de l'arrêt est la grande affaire de la poésie. Elle seule peut réussir à mettre des mots sur l'implosive révolution de l'arrêt. Toute autre tentative ne venant pas d'elle ne serait que vain bavardage. Je vous en fais grâce. Et j'ajouterai que, évidemment, s'arrêter physiquement, c'est déjà pas simple, mais alors ce qui est terrible, c'est quasiment impossible, c'est de s'arrêter intérieurement, d'arrêter le dynamisme, d'arrêter le discours, d'arrêter le bavardage intérieur, les délibérations sans fin. Et je crois que quand on a atteint un certain silence intérieur comme ça, on sent immédiatement que l'environnement qu'on semblait, qui paraissait très hostile, finalement s'accorde vite. Enfin, il y a comme une correspondance qu'on soupçonnait absolument pas. C'est-à-dire qu'en fait, on pressent le silence quand on a fait le silence en soi. Et il est là, même s'il y a du bruit, c'est ça qui est incroyable. Il y a des travaux, il y a des... Et ben, d'un seul coup, on se met à percevoir le sens dans le vacarme. Enfin, c'est une expérience.
François, est-ce que tu peux nous dire un mot d'expérience de ce matin qui aboutit ? Je vais montrer quelques images, parce qu'on est quand même, même si c'est avec des enfants, dans le domaine de l'espace public et de la littérature. Tu dis
oui.
Un mot de ce qu'on a fait à Coutras ?
Oui, oui. Alors là, oui, on a fait des ateliers avec des collégiens à partir de quelques dessins que j'ai réalisés de leur ville. Et donc, à partir de ces dessins, on les a invités à écrire des choses pour pas qu'ils partent de la feuille blanche. Et donc, ils ont écrit des textes divers. On a donné quelques petites indications, mais très, très, très souples. Et on a sélectionné un certain nombre de bribes de phrases. Et on a réalisé comme ça des petits panneaux, des étiquettes verbales, des panneaux qui se sont ajoutés aux panneaux nombreux déjà malgré tout de cette petite ville.
Alors, je donne la parole à Marie-Laure Picot qui elle-même prépare en ce moment un projet pour l'espace public avec deux écrivains.
Oui, alors la question qui se pose pour moi, c'est la question de la diffusion de la littérature, de la création contemporaine littéraire et de la poésie. Puisque c'est un peu mon métier depuis 20 ans. Et donc, j'ai eu envie de donner une carte blanche à deux poètes, qui sont Michael Batala et Frédéric Forté, pour venir dans la ville de Bordeaux, passer quelques jours, et puis écrire sur la ville, écrire de la poésie. Et ce projet donc est en train de se réaliser. Il sera diffusé à Bordeaux pendant un mois de septembre. Et surtout, la spécificité de ce projet, en fait, c'est que il va être diffusé sous la forme d'une animation, en fait, dans différents écrans de la ville. Alors, c'est vrai que Mathieu disait tout à l'heure que la ville est écrite, et elle est aussi écrite avec tous ces nouveaux écrans, en fait, qu'on trouve partout dans la ville, dans les rues, dans les galeries marchandes, la municipalité, dans les médiathèques, les commerces, etc. Et en fait, voilà, j'ai eu envie de voir ce que ça, d'expérimenter en fait, de voir ce que ça pourrait produire, de surprendre les gens qui passent ou qui stationnent, et de diffuser justement de la poésie plutôt que autre chose, de la publicité, des informations, etc. Donc c'est une expérience qu'on va faire. Alors évidemment, tout l'enjeu de ce projet, et je pense qu'il va, enfin, sa réussite va tenir à la manière dont les poèmes vont être montrés, en fait, à travers ces écrans, la façon dont ils vont être montés, la façon dont ils vont apparaître, en fait, c'est tout l'enjeu du projet est là, en fait. Donc, pour l'instant, je peux pas vous dire ce que ça va être véritablement. Les poèmes sont en partie écrits. Les deux auteurs sont venus à Bordeaux. Ils ont composé. Alors, ils se sont donné des contraintes parce qu'en fait, Frédéric Forté est un auteur olypien, donc il travaille la majorité du temps sous contrainte. Et Michael Batala, lui, est plutôt un héritier de la poésie américaine. Il a été très influencé par les objectivistes, par Kerouac, etc. Et donc, tous les deux. Moi, je les ai choisis tous les deux parce que leur texte, leur poème présente une certaine forme de littéralité. Et c'est ça qui m'a intéressée aussi par rapport à l'idée de venir écrire la ville. Parce que c'est le sujet de ta conférence, Didier. Mais du coup, ils ont, comme Frédéric Forté était dans le projet et qu'il travaille beaucoup sous contrainte, ils ont décidé justement de travailler ensemble sous contrainte. L'un a écrit, est allé se positionner dans certains espaces de la ville la nuit, l'autre le jour. Et en fait, on va, le projet final va assembler en fait leur poème de nuit et de jour. Voilà. Ils ont aussi choisi des lieux spécifiques. Ils ont choisi 8 ou 10 lieux. Il y a les bords de Garonne, il y a les Quinconces, il y a le 8e étage de l'immeuble de la métropole à Bordeaux qui domine le quartier Mériadec et toute la ville. Donc il y a plusieurs points comme ça où ils sont chacun allé passer donc un moment de prise de notes, puis ensuite d'écriture. Et donc il y a un graphiste animateur qui s'appelle Stéphane Souillet, qui est donc le troisième intervenant du projet, qui va s'emparer avec les poètes en fait de ces textes pour les faire en sorte qu'ils soient diffusés sous la forme de poèmes animés. Alors les lieux vont être très très nombreux en fait. Hein, au mois de septembre, on pourra donc découvrir ce travail dans beaucoup de commerces via un distributeur en fait qui s'occupe de plein d'écrans, notamment dans les médiathèques de la métropole et de Bordeaux et dans des commerces genre des grandes librairies, etc. Le projet, les poèmes vont être diffusés sous la forme d'écrans géants dans le cadre d'Agora, le festival, la Biennale d'architecture sur la place de la Bourse. Ils vont être diffusés dans un quartier très commerçant de Bordeaux Centre, sur un très grand écran aussi, dans le nouveau quartier, le passage Sainte-Catherine. Et il y aura aussi des affichages en fait au format deco papier, donc sous une autre forme, le long des quais fin août. Ils seront peut-être diffusés aussi dans le réseau TBM, le réseau des trams. Je crois que j'en oublie. Oui, aussi les écrans de la municipalité va les accueillir également de Bordeaux. Voilà. Mais c'est une expérience qu'on va mener et j'espère qu'elle sera positive.
À suivre. Alors là, je vais redonner la parole à Philippe Beck. Et Philippe, je vais te demander de nous lire un court texte avant qu'on échange sur les types d'écriture dans l'espace public possible.
Je pourrais dire un petit mot juste.
Oui, 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 vas-y.
Juste pour... Donc je suis suscité par Mathieu, par les propos de Mathieu. Ce qui m'a semblé repérer un glissement intéressant et délibéré, probablement, de la poésie à la littérature. Or, puisque Marie-Laure a cité Forte, qui est un Olympien, etc., l'une des questions que nous avons en charge aujourd'hui, c'est la question de la différence entre la littérature et la poésie, qui est, sur laquelle nous savons tous, Roubaud a beaucoup insisté. C'est une différence énigmatique du reste. Hein. Par un certain côté, c'est très étrange de distinguer la littérature et la poésie.
C'est ce que je ne sais plus, moi.
Voilà. Non, mais je suis pas là pour rappeler... Et tenter d'imposer cette différence. C'est pas ça du tout que je veux faire. Oui. D'autant moins que je suis pas du tout un éminent spécialiste de la poésie, comme a dit Mathieu, non sans ironie, puisque pour moi la poésie n'est pas une spécialité. Mais alors ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas quelque chose qui me gêne néanmoins dans le glissement subreptice de la poésie à la littérature en général, parce que ça suppose évidemment. Et je répète que je ne suis pas là pour défendre une spécialité ou un domaine, une corporation qui porterait le nom de la poésie. Hein. Mais il y a quelque chose qui pose problème, hélas, ou malgré tout, dans ce glissement, c'est-à-dire, grosso modo, dans l'idée que la poésie est partout, hein, que tout est poésie, que la poésie est partout. Alors je sais là aussi que Roubaud a protesté avec la dernière énergie contre ce concept large et de la poésie. Et tous les malentendus peuvent renaître ici, puisque dès lors qu'on résiste à l'idée de la poésie élargie, sans condition, etc., on est bien sûr tout de suite un défenseur d'une corporation, d'une poésie refermée sur elle-même, frileuse, hérissonnée, etc., etc. Je crois quand même qu'il y a une question là. C'est-à-dire, et si l'idée de la poésie insiste, au point que ceux qui n'en sont pas spécialistes, entre guillemets, continuent d'employer ce mot, c'est qu'il y a quelque chose comme un modèle du poème qui, malgré tout, continue de circuler dans les pratiques des proses, quelque chose d'un fantôme, une idée régulatrice, je ne sais pas comment l'appeler, mais enfin, ça continue d'insister. Alors, et je pense qu'on ne peut pas l'oublier et le passer sous silence. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y ait d'un côté, encore une fois, des poèmes et des proses et que ça n'a rien à voir, parce qu'il y a toujours de la prose dans les poèmes, etc. Et il y a beaucoup de faux poèmes, etc., etc. Mais je crois que tout ce qui s'appelle littérature et tout ce qui se déploie sous le nom de la prose aujourd'hui continue d'être déterminé profondément par une idée de la poésie. Et les poèmes peuvent être non poétiques. Enfin, les poèmes peuvent totalement trahir l'idée de la poésie. Enfin, les poèmes affichés, officiels, etc. etc. Mais c'est même probablement le cas la plupart du temps. Mais, et en particulier quand il s'agit d'afficher les poèmes comme tels dans l'espace public. Oui. C'est-à-dire quand on met des poèmes dans le métro, voilà, ça, ceci est un poème, signalétique. Voilà. La poésie, c'est par ici, voilà un espace, un rectangle dans lequel il y aura du poème, etc. Il y a beaucoup de problèmes, oui. Là.
Philippe, je rebondis à ce
Non,
c'est une question intéressante, juste ce que je voulais te dire à tout le monde. Hein.
Mais j'aimerais entendre Mathieu là-dessus, s'il y a une question qui l'intéresse.
Mais la question qu'on développera dans d'autres rencontres, j'imagine, c'est quel type d'écriture, c'est-à-dire qu'il y a peut-être une écriture pour l'espace public à inventer, et une écriture tout court à inventer, qui prend de la poésie, mais qui prend la littérature. Et la question de l'auteur que Mathieu posait est intéressante, parce que maintenant l'auteur disparaît, ou en tout cas on peut considérer que des textes sont écrits à plusieurs et viennent de tellement de sources. Voilà, donc, et quand je parlais de présent tout à l'heure, il y a aussi tout cet avenir-là d'écriture. Et dans lequel la problématique que toi tu poses est intéressante, et il faut rajouter cette problématique-là de l'écriture nouvelle qui arrive.
Voilà.
Et là, on ne va pas en débattre maintenant, c'est un peu... Mais moi, je trouve que là, des questions se posent avec ce débat de comment la littérature et la poésie, si on les distingue, arrivent dans cet espace du commun, qu'on a encore à vivre ensemble. C'est aussi une façon d'écrire qui n'est pas reproductible, mais qui est plutôt à inventer. Avec au centre des questions comme est-ce qu'on utilise l'ellipse, l'injonction, est-ce qu'on met des choses en situation, en contexte, ou justement on essaie de faire des choses intemporelles. Et effectivement, la question de l'auteur là-dedans est très importante, et parce que c'est une littérature de passage qui participe à la circulation. Bien donc sûr. Moi, je lance des choses comme ça, mais c'est un vrai chantier qui prend finalement, on parle de littérature et de poésie, mais on prend des choses qui sont acquises, alors que je pense que même l'écriture est à redéfinir dans ce projet-là. Mais bon, on va pas
Je me rappelle quand tu avais ces projets d'affiches, j'en avais fait une pour toi d'ailleurs, je m'étais dit, okay, alors il y a une affiche qui intervient dans l'espace public, sur l'affiche, est-ce qu'il peut y avoir du poème estampillé poème ou non, en quoi le poème peut venir intéresser les citoyens qui passent devant cette affiche, etc. etc. C'était une question... difficile, hein. Mais et je m'étais dit à l'époque, il faut malgré tout faire apparaître, on peut le faire en tout cas, on n'est pas obligé, on peut faire apparaître du poème comme tel, qui n'est pas du poème comme tel, puisque le poème est toujours transit prose et traversé par le langage vivant, mais c'est une possibilité, voilà. D'accord. Et évidemment, il y a des poèmes anonymes, non signés, il y a ce langage vivant qui foisonne, etc., etc., qu'on peut aussi accompagner ou non, enfin, qui peut être prolongé, continué, ou alors on peut adopter la solution de Maton, qui est de suspendre le langage.
Philippe, dis-nous un court texte, parce que j'aimerais aussi entendre après Mathieu, qui nous a aussi préparé quelque chose.
J'ai pas vraiment quoi lire, en fait, pour être très franc. Alors peut-être je vais juste lire un extrait d'un chapitre consacré à Ballard, où il est question de ce dont on parle, quoi, dans le chapitre consacré à la poésie comme science-fiction de maintenant. Peut-être ça, un court texte. Il y a une espèce de... Une note sur Ballard et la dépaysannerie... C'est pourquoi Ballard ou Dick et ses idées imaginatives dictées dans un temps, entre parenthèses magazine pressant, contre-talent développé, semi-vie, etc., emploient aussi indirectement les proses filtrées de la science, mais elles ne prévoient pas les biorobots entrepreneurs. Il ne s'agit pas de prospecter, d'explorer un présent séparé, puis de décrire un monte-charge vers le ciel comme Clark dans Les Fontaines du Paradis, 1980. Un poème en puissance décrira comment l'espace du lecteur de maintenant s'élabore dans l'inquiétante profondeur, l'inquiétante étrangeté calomniée d'un présent qui estompe, je cite Ballard, je cite Burroughs, la ligne de démarcation entre les paysages intérieurs et les paysages extérieurs. Il doit montrer, je cite encore Burroughs, 1972, les convulsions sismiques à l'intérieur même de l'esprit humain. Car, citation, les gens sont faits d'images. Le paysage spinal est celui des colonnes de roches poreuses de Tenerife, les tours de briques vitrifiées surplombant les marais silencieux. Rien ne se reflète jamais dans le miroir des marais. Ici, le temps ne fait aucune concession. C'est ce que dit Ballard. Les préfaces de Ballard montrent une conscience exacte des processus pré-poétiques. Elle parle d'un monde toujours plus surréel, 1969. Et feuillette le, je cite, le menu psychique. Encore citation de Ballard. Les fantasmes les plus extrêmes de la science-fiction et de la bande dessinée sont devenus la réalité du lieu commun. Si bien que, citation, le paysage externe de notre existence devient de plus en plus fictif. Voilà.
Mathieu, une réaction à cette notion d'auteur, et après j'aimerais bien que tu nous aies un court texte du travail que tu es en train de faire en ce moment sur les insomnies.
Alors, pour revenir un instant à la question de la distinction ou non entre littérature et poésie, de ce qu'elle implique, de ce qu'elle suggère... j'avoue être... redoutablement nominaliste et du coup avoir toujours beaucoup de mal à m'emparer de ces questions qui d'une manière ou d'une autre à un certain endroit renvoient à des questions d'essence. Je vais peut-être juste me contenter d'essayer de préciser ce que je voulais dire. Je voulais pas dire tout à l'heure du tout que ce qui a nom poésie trouverait dans les écritures urbaines, d'emblée, une sorte de milieu où déjà on l'aurait précédé, où au fond il s'agirait simplement de s'ajuster. C'était pas mon propos parce que je crois que ça n'est pas intéressant. Tout simplement, je pense qu'il y a d'autres disciplines. Tous les mots sont chargés. Est-ce que c'est une discipline ou pas ? Bon, je pense qu'il y a des pratiques qui se suffisent assez bien à elles-mêmes pour n'avoir besoin ni de littérateur, ni de poète, ni de... etc. Mon propos portait plutôt sur les conditions sous lesquelles il est possible de se poser le problème de savoir ce que c'est qu'une écriture de la ville, l'écriture de la ville dans une ville écrite. C'est ma question serait là. Je me souviens d'un... Non, ça nous entraînerait trop loin, mais... j'y vais quand même. Je me souviens d'un très beau texte d'une anthropologue à propos des pratiques rituelles funéraires chez les Roms. Pratiques funéraires qui consistent essentiellement à se débarrasser de toute une série d'objets, à ne plus utiliser le nom du défunt, voire à laisser en jachère, ce qu'on appelle la Mulengri Praca, en Romanie, le site où il était installé. Et l'anthropologue a tout un discours disant qu'au fond, tant pour une population, pour une culture qui s'installe, qui vient et qui s'installe sur un lieu déjà saturé de signes, la seule manière de faire signe est de soustraire de ces signes quelque chose, d'enlever quelque chose, de placer en réserve. Bon. Donc, ce que je voulais dire, c'est un peu par analogie, si le mot de poésie a à voir avec un retrait ou une séparation ou un écart depuis lequel du présent se laisse voir, cet écart-là, il n'est pas donné et il peut être à l'occasion particulièrement difficile à pratiquer. C'est une première chose. Je ne sais pas du tout si ça...
Non, mais je ne voudrais juste pas passer pour l'idéaliste de service.
Ah non, mais...
Qui défend une essence de la poésie. Ce n'est pas du tout ce que... Je serais assez nominaliste, moi aussi. Mais quelle serait la vie nominaliste du mot poésie, selon toi? Si je peux l'appeler.
Je ne sais pas. je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que... ma pratique est davantage... Je me suis situé plus régulièrement du côté de la philosophie que du côté de la poésie ou de la littérature. C'est-à-dire que mon usage des termes fait plutôt référence à quelque chose comme des problèmes. Et je vais essayer de retomber sur mes pieds. Ce qui m'intéresse... S'il y a quelque chose, si quelque chose peut se passer entre eux, ce qui est de l'ordre du poétique et ce qui est de l'ordre de la ville, il me semble que c'est du côté de la fréquentation, ce qu'on pourrait appeler le problème de la fréquentation. C'est-à-dire quelque chose qui n'est pas de l'ordre de l'événement, ou de l'événementialité, d'abord. Donc quelque chose qui a à voir avec une certaine quotidienneté, ce que désigne déjà la question du flâneur, la question des passages, etc., dans une tradition qui va de Baudelaire à Benjamin. Et puis, quelque chose qui n'est pas non plus exactement ce que toute une réflexion héritée de Maurice Blanchot travaille autour de l'effacement de l'auteur et ou du lecteur dans une sorte de montée ou d'épiphanie de la langue qui travaille à effacer les traces et l'adresse, à la fois la signature et l'adresse, au fond, qui parle, qu'importe qui parle, comme disait Foucault, il y a la langue. Je crois que, enfin moi, ce qui m'intéresse en tout cas...
C'est Beckett.
Oui, c'est Foucault citant Beckett, pardon, dans la conférence « Qu'est-ce qu'un auteur ?» Ce qui m'intéresse, c'est la façon dont habiter en ville, c'est se croiser de temps en temps. Autrement. Et les pratiques qui consistent à laisser un mot sur les murs de la ville sont des pratiques qui consistent à laisser un mot pour quelqu'un qui va passer plus tard. Non pas pour Dieu sait qui, mais pour quelqu'un qui va passer plus tard, sachant que soi-même, on passera plus tard. Donc, non pas dans une disparition de l'auteur et du lecteur, mais dans une forme d'espacement de leur présence, de lien à distance, de lien relâché, mais non perdu, et dont le relâchement même peut être intéressant, peut être, d'accord, par exemple, de l'ordre du désir. Ouais. Alors, j'en viens à mon affaire d'insomnie. Parce que... ce travail sur la question de l'insomnie, il vient d'une pratique que j'ai eue et que beaucoup de gens ont, en fait, des réseaux sociaux, qui est une pratique tout à fait particulière, qui consiste à se réveiller à 2 ou 3 heures du matin quand on n'arrive pas à dormir et à laisser un mot. À laisser un mot pour constater que d'autres sont réveillés au même moment, qui sont très loin, qui sont insomniaques également, ou que d'autres croiseront ce mot plus tard, lorsque soi-même, on sera rendormi. Donc il y a une sorte de communauté de ceux qui dorment mal, communauté qui, justement, est un peu intermittente, puisqu'au fond, c'est la beauté de ce genre de messagerie, c'est qu'on n'est pas obligé de... C'est pas intrusif, on n'est pas obligé de réveiller l'autre pour lui parler, on peut juste lui laisser un mot. Et je trouve que ça, c'est un écritoire intéressant. C'est-à-dire, c'est vrai qu'à un certain moment, et c'est de là qu'on est parti, parce qu'après tout, sa page sur un réseau social, on appelle ça un mur. Donc, on peut peut-être aller du mur au mur. C'est de voir ce qu'on peut écrire, ce qui peut s'écrire de l'insomnie dans ce rapport de fréquentation et d'espacement là entre des gens qui voilà. Enfin bref, ça a donné une série de fragments dont peut-être il va sortir quelque chose. Je peux vous en lire quelques-uns. 4h12. L'insomniaque se rappelle qu'au baby-foot vient toujours ce moment où, la petite balle ayant trouvé à s'arrêter à équidistance des lignes de joueurs, dans cet espace que n'atteignent par exemple ni les pieds des avants rouges ni ceux des arrières bleus, la partie s'exaspère en roulette impuissante. Comme s'il fallait face à face, en imprimant à la poignée une vrille rageuse, en faisant tinter le ressort qui cercle les barres d'aluminium, protester chaque fois contre l'écartement des barres, sans entamer pourtant en rien l'immobilité de la bille, sans lui rendre le souvenir des trajectoires et de l'élan, ni lui permettre d'échapper à son pote au noir. La bille ressemble à une vieille personne qui, sur le chemin, aurait oublié où elle allait. Voilà. Une insomnie, c'est exactement cela. 4h42. L'insomniaque ne se rappelle jamais ses rêves. D'un autre côté, il est probable que ses rêves ne se souviennent pas de lui non plus. 4h53. Perdu sommeil, tranquille, affectueux, volontiers joueur. Tatoué discrètement dans le rêve gauche. Forte récompense, inconsolable, son maître n'endort plus. 3h14. L'insomniaque dort en fractionné pour améliorer ses performances. 3h25. L'insomniaque ne fait toujours pas ses nuits. Consulter un pédiatre. 4h06. Cher voisin, nous organisons une petite fête cette nuit car plusieurs d'entre nous déménagent complètement. Nous espérons que vous ne comptiez pas trop dormir. Désolé pour la gêne occasionnée. Cordialement, vos pensées. 1h10. L'insomniaque, faute de pouvoir retarder le moment de se lever, repousse autant que faire se peut celui de se coucher et pressant que la faille dans cette stratégie devrait apparaître d'ici 5 à 6 heures. 4h29, l'insomniaque n'aperçoit plus ni le soir ni le matin, du coup s'inquiète. Imaginez qu'il veille dans la mauvaise direction. Encore celui-ci. 3h50, l'insomniaque retourne son exemplaire de la tranquillité de l'âme de Sénèque dans l'espoir de trouver la solution des jeux. En fait, ce qui m'a intéressé, c'est cette pratique du petit mot, qui n'est évidemment pas une pratique de l'énonciation lyrique. C'est autre chose.
Et ça, très concrètement, Mathieu, tu le vois dans la ville. On prépare une affiche ensemble, donc forcément, ces textes vont se retrouver dans l'espace public. Mais c'est le type de texte dont tu parles en disant que tu laisses un message pour quelqu'un qui, à un certain moment, va le croiser, ce message. Il va le prendre pour lui.
Bah oui. Oui, parce que les messages qu'on laisse dans la ville par ailleurs, et qui ne sont pas les mêmes, sont toujours pris entre deux extrêmes, entre... je parle à n'importe qui, et puis je laisse. Il y a des gens qui font ça, hein, qui laissent un livre de telle manière qu'un autre puisse le trouver, le récupérer et le lire à son tour. Donc, il y a toujours quelque chose de. Il y a toujours une tension dans les messages qui circulent dans la ville entre l'ésotérique et l'exotérique, c'est-à-dire entre ce qui est fait pour tous et ce qui est fait pour quelques-uns. Et je trouve que c'est du coup la question de l'écriture de l'intime dans l'espace urbain, m'intéresse. D'accord. Puis il y a autre chose qui m'intéresse aussi, c'est que je ne pense pas que l'opposition aujourd'hui, que je parlais tout à l'heure de politique, je ne pense pas que la politique des murs aujourd'hui consiste à opposer l'interdit ou l'obligatoire et le sauvage. Je pense qu'on a un petit peu changé de régime politique. Aujourd'hui, on est beaucoup moins dans une écriture de l'interdiction, interdit de stationner, que dans une écriture de l'incitation. Même les messages dans le train pour penser à composter, ne pas frauder, etc., sont des messages invitants. Et je trouve que c'est plutôt intéressant du coup, enfin, s'il faut marquer un écart, de produire dans la ville des morceaux d'écriture qui n'invitent à rien. Enfin, qui ne sont absolument, qui n'incitent pas à adopter quelque attitude que ce soit. Voilà. Ça, je trouve ça plutôt intéressant.
D'accord. Alors, le temps passe très vite et je voulais donner la parole à Jean-Paul Ratier. Jean-Paul Ratier, qui a une expérience très intéressante sur la ville avec le poète Rémy Cecchetto.
Pour la rencontre entre le poème et l'architecte. Enfin, la poésie, on en parlera après, mais enfin, le poème et l'architecte. Qu'est-ce que le poème fait à l'architecte et qu'est-ce que l'architecture peut venir faire au poème ou dans le poème, je ne sais pas. Mais ça, je crois que c'est une question vraiment très, très intéressante. Et ce dont je peux dire quelques mots, c'est une expérience avec donc Rémi Cecetto qui, en 2012, avait fait un premier travail à Marvejols, un premier texte qui s'appelait « Littérataire », suivi après à Agde d'un autre texte qui s'appelait « Littéramère ». Et il avait proposé de venir travailler à Bordeaux sur un projet intitulé Littéraville. Ce projet de Littéraville, c'était l'idée qu'une déambulation était possible dans la ville étant en partie quelques fragments de la commune de Bègles et quelques fragments de la commune de Bordeaux, pour repérer la façon dont le végétal faisait irruption dans la ville de Bordeaux et la façon dont la ville faisait irruption dans la campagne du côté de Bègles. C'est-à-dire cette confrontation entre le monde végétal et puis le monde minéral de la ville. Alors, sur l'écriture, le projet d'écriture, on était tombé d'accord sur un point de départ qui va sans doute faire écho à des choses qui ont été dites là, tout à l'heure. Et je me souviens en avoir parlé en 2015 quand tu avais fait une rencontre autour de Roland Barthes. C'est un petit extrait de « Sémiologie et urbanisme », un texte de Roland Barthes, qui dit « La ville parle à ses habitants. Nous parlons notre ville, la ville où nous nous trouvons, simplement en l'habitant, en la parcourant, en la regardant. La ville est une écriture. Celui qui se déplace dans la ville, c'est-à-dire l'usager de la ville, ce que nous sommes tous, est une sorte de lecteur qui, selon ses obligations et ses déplacements, prélève des fragments de l'énoncé pour les actualiser en secret. Prélève des fragments de l'énoncé pour les actualiser en secret. Et je pense que c'est l'expérience que fait aussi le lecteur du poème. Et que la poésie, ça désigne peut-être tout simplement cette expérience-là, d'une rencontre fortuite, ou je ne sais pas, enfin, entre le poème et quelqu'un qui veut bien s'arrêter pour le lire, pour se laisser traverser, habiter par le poème. Ben voilà, moi, comment j'aurais envie de parler de la poésie. Et d'ailleurs, il y a une question qui s'est posée. Donc, Rémi a fait cette résidence d'écriture soutenue par le CNL en 2015. Le texte est écrit, et ce texte s'est écrit dans la rencontre avec des personnes habitant ces petits morceaux de ville entre Bègles et Bordeaux. Ce texte a été, dans le processus d'écriture, rendu public via un blog. Il y a eu des temps de lecture dans des médiathèques, des temps de lecture, mais par fragments, par petits bouts. Aujourd'hui, on a ce texte, donc je dirige une association qui fait aussi de l'édition, et on a décidé de suspendre notre envie d'éditer le texte, d'attendre l'occasion de remettre en circulation le poème dans la ville, avant de l'éditer. Et on est dans cette période-là un peu bizarre, quoi. Le texte, il existe, il pourrait tout à fait être édité, mais on sent qu'il y a quelque chose, il y a encore une étape qui manque dans la mise à l'épreuve du poème pour faire aboutir cette expérience de poésie.
En gros, tu cherches des formes d'intervention de poèmes dans la ville, ou c'est cette forme, ou c'est des...
Oui, c'est-à-dire que...
C'est les conditions qui te manquent en ce moment, là.
Ben, c'est ça que je ne sais pas encore très bien, mais c'est pour ça que ça m'a beaucoup intéressé tout ce qui s'est dit là, parce que j'ai l'impression d'être traversé par ces questions sans avoir pu me les dire avant de vous entendre. Voilà. Et ça m'a fait beaucoup de bien de vous entendre, parce que ça permet de mettre des mots sur quelque chose qui manque. Mais voilà, et ce manque-là, il est vraiment très, très intéressant. Et alors, juste, enfin, par association d'idées, il y a une expérience que j'ai réalisée là en 2016, sous l'intitulé « J'ai un plan », une proposition d'écriture qui a été faite à des demandeurs d'asile réfugiés sur la commune de Bègles. Et le travail consistait à leur proposer, à partir d'un plan de la ville, de déambuler dans la ville et de repérer, en fait, de faire 6 prises de vue, 3 prises de vue de lieux perçus comme agréables, accueillants, où on se sent bien, et 3 prises de vue de lieux perçus comme inquiétants, menaçants, inhospitaliers. Donc ces personnes revenaient avec leurs 6 photographies. Et on prenait le temps de se dire qu'est-ce que l'on voit dans cette photographie. Donc chacun avec les mots qu'il avait à sa disposition. Et dans l'échange, dans la rencontre autour de cette image, il y avait des espèces de troc de mots, un enrichissement mutuel de vocabulaire en français pour nous, les locuteurs du français, et puis en mots persans, arabes, russes, tout un travail de traduction, et qui petit à petit amenait à fabriquer un texte qui venait légender chacune de ces photos. Et le résultat a été étonnant, et je me souviens d'une photo d'un homme ukrainien, Victor. Il avait photographié, il avait fait une prise de vue d'une accumulation d'encombrants mis là, dans une impasse. Et il montre cette photo, et son texte, c'était « Avec cette photo, on ne peut pas faire de poésie ». Et on a écrit ça, avec cette photo, on ne peut pas faire de poésie. Et la photo avec ce texte dans le cahier qu'on a édité, c'est une des plus belles, c'est un des plus beaux poèmes, une des plus belles photos. Donc de quelque chose qui accepte de faire l'expérience de l'impossible, de quelque chose que je ne peux pas forcément montrer comme je le voudrais, que je ne peux pas dire non plus comme je le voudrais, mais dans la tentative de le montrer, dans la tentative de le dire, il y a un poème qui arrive. Il y a quelque chose qui nous arrive. Et peut-être que c'est ça, la poésie, c'est d'accepter de faire quelque chose avec ce qui nous arrive.
J'ai l'impression qu'on a effleuré des tas de choses intéressantes. Je remercie Philippe, Mathieu, François et Marie-Laure d'avoir mené ce débat avec moi. On est juste au début. Merci à vous.